bon, on conduit 10 heures chaque, 11 heures chaque, puis le logbook, tout ça, c'est tout est pleinement légal, mais un voyage en solo comme ça, on partirait à 4 heures le jeudi, puis probablement que ça rentrerait le samedi, le dimanche, à la même endroit. Mais là, en team, on est capable de le faire, on a bien du fun, on arrête un peu partout. C'est pour ça que je te dis que c'est pas vraiment un voyage normal que les camionneurs font quotidiennement ou hebdomadairement. Bien, on prend notre temps, on arrête à des bons restaurants, puis on continue après, mais le camion va virer 24 sur 24.
Non, mais félicitations à toi et toute la belle gang de Truck Stop Québec. C'est le fun que tu fasses ça pour ramasser des fonds. Puis c'est toujours un plaisir de te recevoir sur les ondes de boulevard. C'est toujours un plaisir de jaser avec nos très chers camionneurs. Parlant de toi et ta gang, là, avez-vous fini de briser nos routes? Là? Parce que là, je regarde, là, les routes là, sont tout scrap. Il y a des roulières et tout ça. Le seul problème, Ben, c'est que moi, je suis bien prêt à croire là, les haters là, comme quoi c'est les camionneurs qui brisent les routes. Mais quand je regarde un camion, puis je regarde les roulières, puis je me dis, un peu, là, moi, on me dit que c'est les camions qui sont responsables des roulières qui sont là, sauf que le camion dépasse les roulières chacun, tu sais, de chacun des côtés, puis que ça correspond à la roulière d'un automobile. Je me dis, ça se peut-tu qu'on nous mente une fois de temps en temps concernant l'état de nos routes, puis des raisons pour lesquelles nos autoroutes sont désagrégées? Tu vois clairement, là, quand le camion il passe au-dessus de la roulière, là, ça embarque pas. Le camion dépasse la roulière. Puis moi, je suis dedans, puis ça fit parfaitement avec la roulière. On nous ment, Ben. Ou on rit de nous autres, là, je sais pas, là, mais c'est d'un ridicule éhonté. Là.
Peut-être un peu des deux, puis t'as bien raison. Nous autres, les roulières, c'est un défi parce que le camion veut danser de gauche à droite dans les roulières parce qu'on n'est pas tout à fait dedans.
Exact.
Des fois, on est sur un côté, des fois, on est plus sur l'autre côté, puis des fois, on fit bien dedans. Je te dis pas qu'un camion ne magane pas le chemin, sauf que les camions, aujourd'hui, on est limité en poids.
Exact.
Puis quand on est limité en poids, ben ça va paresseux. En période de dégel, comme on le vit actuellement, et vous passez sur les centres de pesée, là, de contrôle routier Québec, ben vous voyez qu'on arrête les camions, on veut vérifier le poids des camions. Puis, c'est pas rare que ça arrive des fois qu'il y a un surplus de poids, mais c'est pas 200 livres qui maganent les chemins. Si on avait pensé au départ, Yannick, de produire une dalle de béton, même sur les routes secondaires,
ouais,
ben on serait peut-être moins souvent en train de tout réparer nos structures routières. On a abandonné pendant combien de temps la réfection de bien des routes. Puis aujourd'hui, bien, on vit avec les décisions du passé. On a enlevé le péage. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Tu te rappelles, dans ton jeune temps, qu'il y avait des postes de péage un peu partout?
Oui, puis
ça permettait de ramasser des sous.
Et c'était administré par le gouvernement du Québec. Et tu sais quoi, Ben?
Ben oui.
Ils ont trouvé le moyen de perdre de l'argent. Ben oui. Avec ce qu'ils avaient mis en place, c'est-à-dire des autoroutes à péage, ils ont perdu de l'argent avec ça. C'est le Québec. Mais tu sais, juste pour rappeler aux gens que quand vous voyez des roulières qui sont de la largeur d'un automobile, pouvez-vous arrêter d'accuser constamment les camionneurs?
Effectivement. Puis de toute façon, si vous accusez les camionneurs, vous avez simplement qu'à pu commander absolument rien.
Ah ouais.
Ça veut dire que consommez plus, parce que si vous consommez quelque chose, il faut qu'un camion le livre quelque part dans un entrepôt. Vous avez juste à arrêter de prendre votre épicerie à chaque semaine, puisqu'il y a des camions qui vont aller livrer les fruits et légumes dans vos épiceries ou les denrées normales. Et cessons toute activité. Mais au départ, quand le chemin n'est pas solide, quand l'excavation n'a pas été faite assez profonde, pour sauver des coûts, là, je vois pas d'autre chose que ça. On veut sauver des coûts, puis on dirait qu'ici, on a un cycle où il faut faire travailler nos gens à des périodes de 4, 5, 6 ans, parce que la route est tout défoncée. Le pont, la porte où on a dû, où on va devoir enlever la chaussée, là, parce que c'était quoi, la membrane qui était pas conforme.
Tu sais quoi, je savais qu'on allait se parler cette semaine, soit dans notre chronique du lundi ou encore sur les ondes de boulevard, puis je me suis dit, je vais prendre la peine de regarder comment ça se passe actuellement sur le pont La Porte. Sur le pont La Porte, ça va bien. C'est à l'entrée puis à la sortie des ponts là, de chacun des côtés qui manquent des galettes d'asphalte. Puis ça, ben, tu sais, quand tu parles au porte-parole du ministère les transports, ils disent tout le temps la même affaire. Bien, vous savez, c'est un pont, c'est pas évident. Il y a de l'eau en dessous, l'humidité, la membrane, mais de l'autre côté, l'endroit où il manque de l'asphalte actuellement, des galettes d'asphalte, là, c'est de l'endroit, c'est des endroits où il n'y a pas de. Il n'y a pas de fleuve qui passe en dessous. Fait que ce que les porte-parole du ministère des Transports, ils semblent, je sais pas, faire abstraction de ça, mais quand même nous dire que c'est en raison du fleuve. T'as peu, là. Quand il n'y a pas de fleuve en dessous, ça peut pas être en raison du fleuve. Mais eux autres, c'est des porte-parole. Donc, ils se font dire quoi dire. Ils le mettent dans des mots un peu plus beaux. Puis, ils sont pas nécessairement, ils passent pas nécessairement sur ce tronçon-là. Fait qu'ils se rendent pas compte, des fois, que ce qu'ils nous disent, ça a pas de maudit bon sens. Mais, regarde, ils le font. Ils disent qu'on leur dit de dire. Mais, somme toute, là, les règlements, pour ce qui est, sans trop rentrer dans les détails, là, j'avais pas prévu jaser de ça avec toi, Ben, c'est à la fonte des neiges, vous pouvez pas avoir plus que temps paresseux, c'est ça?
En fait, ce qui arrive, c'est que la période du dégel est mise de l'avant par le MTQ.
Ouais.
Ça veut dire que, bon, quand on voit que tout commence à fondre, comme là, présentement, on va limiter le nombre de poids paresseux pour ne pas créer une pression. Puis tu sais que il n'y a qu'au Québec, en Amérique du Nord, qu'on oblige un dégel. Hein. Ça n'existe pas dans l'État du Vermont, ça n'existe pas. On a des poids maximales pour les camionneurs, mais on n'a pas de zone de dégel.
Il n'y a pas ça dans le Maine.
On n'a pas ça. Puis pourquoi qu'on n'a pas ça? Parce qu'on a prévu qu'on mettait de l'argent sur les routes. On faisait de l'excavation. Mais au Québec, tu sais, quand on dit, « Ouais, mais là, tu comprends, là, c'est le dégel, là, les galettes d'asphalte volent partout, puis on est pogné avec ça.
Ouais. »
Écoute, si on était dans l'État du Vermont, si on était dans l'État de New York, ça ferait longtemps que ça serait patché, ça ferait longtemps que ça serait réparé. Puis on ne se promènerait pas à journée longue avec des cratères un peu partout sur les routes. Puis pourquoi qu'on est à peu près la seule place en Amérique du Nord où on fait un concours annuellement, quelles sont les pays routes ou quels sont les pays nids de poule? On a des concours là-dessus au Québec. T'sais, peut-être qu'on pourrait se regarder un petit peu le nombril et dire, est-ce qu'on peut mettre du ciment dans le trou? Est-ce qu'on peut excaver? Est-ce qu'on peut faire un job one-shot deal? Si je vais aux États, là, je le sais, là, je parle souvent des États, mais torieux, j'ai pas de roulière aux États. Les autos, quand ils roulent, on va mettre une dalle de béton puis on va ajouter un peu d'asphalte dessus pour le bruit et le confort. Mais est-ce que vous vous promenez puis vous êtes à gauche puis à droite puis à essayer de danser dans les roulières? On n'a pas ça aux États.
J'ai l'impression que c'est la loi du plus bas soumissionnaire qui est une problématique depuis des décennies. Ce serait peut-être le temps de la revoir. Puis c'est quoi? Je te fais rentrer un peu dans ma vie. Ben joue au décaquet avec un gardien qui est incroyable. Bon, il laisse passer des sapins une fois de temps en temps, là, mais c'est un gardien qui est incroyable. S'il m'entend, il va vouloir me tuer. Mais lui, il est responsable. Tu sais, quand il y a des chantiers sur la 20, sur la 40, c'est un des grands responsables du chantier, OK? Puis là, il m'avait entendu, je me souviens pas s'il m'avait entendu parler de ça sur les ondes de Truck Stop Québec ou encore sur les ondes de Boulevard, mais il m'a dit, Yann, je t'ai écouté parler là, de ce qui se passe sur les chantiers là, quand on fait ça, tu connais pas ça. Ah ouais, parfait.
Ah,
okay. Fait que j'ai dit, c'est quoi j'ai dit de mal? Ben, tu sais, tu disais les affaires, tu tournais les coins ronds. Ben moi, je me souviens de ce que j'ai dit par rapport à ça. Je me souviens que j'ai parlé de la loi du plus bas soumissionnaire. Je me souviens que parfois, sur les chantiers, ça va pas comme on veut. Puis quand on doit couler l'asphalte ou encore qu'on doit couler le matériel, faut le faire à une certaine température. Puis des fois, la température est pas adéquate. Puis pour pas retarder le chantier, on coule le matériel qu'on doit couler, même si la température n'est pas adéquate. Ça, je l'ai dit. J'ai dit, t'es-tu d'accord avec moi? Parce que je le faisais confirmer à chaque fois. Quand tu t'ostines avec le gardien, déjà, sont un peu bizarres. Là. Fait que j'y allais étape par étape. Puis j'ai dit, ça arrive-tu des fois que le responsable, là, celui qui prend la température là, du fameux coulis, là, de l'asphalte ou autre, là, ça arrive-tu des fois qu'il est appelé ailleurs puis les gars, ils coulent rapidement? Ouais, ça arrive. Ça. Ah ouais, OK. Puis c'est tout ça qui était faux? Ouais, c'est parce que ça arrive une fois de temps en temps. OK, parfait. Puis toi, t'es responsable de signer, tu signes-tu pareil? Ben oui, je signe. Mais pourquoi tu signes? Ça n'a pas été fait dans les...
C'est pas toi qui l'a vu.
Ça n'a pas été fait dans les normes. Il dit, c'est parce que là, nous autres, on va avoir de la pression des gars du chantier.
Ah!
OK. Mais je dis, OK. Fait que finalement, ce que je disais, ça avait du bon sens. Mais toi, tu signes parce que tu vas avoir de la pression des gars du chantier, parce que tu retardes le chantier. Ouais, c'est un peu ça. OK. Mais est-ce que tu te rends compte que tu nuis à la population en général en permettant à des individus, qui eux autres ont été retardés, c'est pas de leur faute, là, mais en permettant à des individus d'épandre le matériel, de le laisser là, puis que ça soit refaire dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Ouais, je le sais, mais tu sais, Yann, sérieux, là, faut que tu le vives pour comprendre, là, il y a de la pression. Parfait, OK, c'est correct. Mais juste maintenant, là, je dis, pour que la garantie soit légale, là, est-ce que c'est vrai que ça prend plusieurs heures que la température de l'asphalte, exemple, elle doit refroidir avant que les véhicules commencent à rouler dessus? Je pense que c'est sur les ondes de Truck Stop Québec que j'ai dit ça m'en revient. Là.
Je m'en souviens.
Est-ce que c'est vrai que ça prend plusieurs heures avant que la température descende de l'asphalte puis qu'on puisse rouler dessus? Il me dit oui, parfait. Je dis, est-ce que c'est écrit textuellement dans le contrat? Oui, c'est écrit textuellement dans le contrat. Parfait. Quand vous ouvrez des chantiers là, après avoir répandu votre asphalte, là, c'est combien de temps après? Ah, Yann, il dit faut ouvrir tout de suite.
On ne laisse pas reposer le matériel.
Fait que là, je dis, donc la garantie ne fonctionne pas. Là, il fait, ouais. Tu sais, tous ces gens-là se couvrent tout le temps.
Là, moi, tu laissais passer quelque part qu'après?
Ouais.
Ou...
Tu sais, moi, j'étais un pauvre diable à la radio, là, puis je jase, tu sais, ma facilité, moi, c'est de jaser avec les individus puis qu'ils me racontent leurs histoires. Puis là, après ça, moi, je fais juste répéter pour avoir de l'air intelligent à radio. Puis ça donne que, tu sais, souvent, je tombe exactement sur la patente. Puis là, il y a des gens qui écoutent ça puis qui sont pas contents de se faire dire que ça a pas de bon sens ce qu'ils font, ces chantiers. Oui. Puis ils me disent, non, mais je t'écoutais à la radio, hey, tu tournais quoi un rond, tu dis n'importe quoi. Puis là, j'y allais étape par étape, puis finalement, ben, tu sais, je parlais au gars qui signe le papier comme quoi tout est conforme, alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas conforme, mais ils n'ont pas le choix.
Mais il ne veut pas le dire.
Ben, il ne veut pas voir la réalité en pleine face.
Oui. Puis, tu sais, des fois, on dit, hey, on va accuser les camionneurs qui viennent livrer du vrac sur les chantiers, on va accuser. C'est sûr que le plus bas soumissionnaire, lui, ce qu'il veut, c'est de rentrer dans son argent et ce, le plus rapidement possible, et que le chantier soit opérationnel très rapidement. Mais t'amènes un bon point. À qui revient la faute? Est-ce que c'est aux ingénieurs du MTQ? Est-ce que c'est à ceux qui ouvrent les enveloppes et attribuent les contrats? Est-ce que c'est au plus bas soumissionnaire? Moi, là, si j'opère une compagnie de nivelage, mettons, ou d'asphaltage, si tu me dis ça n'en prend 4 pouces, je vais te facturer pour 4 pouces. Si tu me dis ça n'en prend 6 pouces de ciment, je vais t'en emmener pour 6 pouces. Est-ce que le ciment sera armé? Est-ce qu'il y aura de la fibre dedans? Est-ce qu'il y aura... Peu importe, je vais y aller selon ce que tu me demandes. Mais là, à un moment donné, c'est ça. À qui revient la faute? Puis c'est plate à dire, mais moi, je ne vois jamais la faute de personne. On a des roulières après 2 ans, puis il faut refaire ce coin.
T'sais, l'entrepreneur Ben qui remporte là, l'offre, là, c'est lui qui a soumissionné le plus bas. Okay? Un entrepreneur, par définition, il entreprend, puis il veut dégager un certain profit. Comme il a soumissionné le plus bas possible, advenant le coup, il y a des retards sur le chantier, Ben, là, il n'est pas content. Fait qu'il faut que les gars travaillent le plus vite possible, puis même s'il y a des petits accrochages, il faut que les gars continuent d'avancer pour finir le chantier puis passer à d'autres choses, parce qu'il a soumissionné sur d'autres choses. Mais puis c'est ce que j'expliquais à mon gardien. C'est le meilleur gardien du monde. Des fois, il laisse passer des sapins. Il est un peu bizarre. Mais c'est lui qui est responsable du chantier, de s'assurer que tout soit conforme. Puis il signe pareil. C'est juste qu'on a plus de conscience sociale.
Non, ça, c'est vrai.
Mon travail...
Mais mettons qu'on s'assoit.
Mon travail... mais mon travail consiste à m'assurer que tout le chantier soit conforme puis que le tronçon soit disponible pendant des années et des années sans qu'on doive revenir. Est-ce que je fais bien mon travail si je signe? Si la réponse est non, tu ne signes pas. Mais là, Yann, ils me font des pressions. Je m'en fous. Viens me voir, moi, là, puis je vais en parler à la radio, puis tu vas voir, on va essayer de brasser un peu, mais ils n'ont pas le droit de te forcer à signer si ce n'est pas conforme. Bien, actuellement, ça se fait sur les chantiers au Québec.
Mais les ingénieurs, ceux qui demandent un devis pour avoir des soumissions, est-ce qu'eux autres ne devraient pas exiger un minimum de X, puis après ça, bien, le soumissionnaire ne peut pas enlever le minimum? Puis moi, là, j'irais plus loin que ça, OK? J'irais dans le sens que j'ai 4 ou 5 soumissionnaires. Venez vous asseoir avec moi. Bon, tu m'as proposé ça, toi. Je ne dirais pas le prix pour pas que les autres le sachent. Mais qu'est-ce que tu vas m'offrir? Puis là, on jase à 4. D'après moi, là, même si on donnait une petite parcelle d'ouvrage à tout le monde, là, on gagnerait peut-être en qualité. Puis les utilisateurs, j'écoutais dans le secteur de Montréal l'autre jour, des utilisateurs sur une ligne ouverte dire « J'ai quasiment perdu mon auto d'un cratère à l'angle de telle rue et telle rue, puis là, la ville, puis gnagnan. » Mais c'est pas normal qu'on ne bouge pas ça rapidement puis qu'on ne prend pas une équipe externe de dire « Faites le tour des quartiers, remplis, patchez en attendant. » Puis quand c'est assez creux, là, ben donnez, ou quand on a des normes X, ben donnez-nous l'adresse, la géolocalisation, peu importe, et on refera un bout de rue là. Ça n'a pas de maudit bon sens. On se promène ça à 20, là, c'est sûr que de, mettons, des ponts à aller jusque vers les sorties ici de Plessisville et des environs, bien, on peut dire que majoritairement, on a mis une dalle de béton. On souhaite que ça t'offre longtemps, mais ça n'a pas été creusé, disons, 10 pieds de creux. Ça n'a pas été rempli. On l'a fait rapidement, c'est sûr. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bon, bien, regarde, je te donne, toi, à entreprise X, le mandat de me faire une route et je te demande une garantie de 10 ans sur tes travaux et sur le matériel. Donc, pendant 10 ans, tu devras patcher si ça craque ou s'il y a des trous qui apparaissent. Et tu devras... Fait que la compagnie pourra pas... Tu sais, dans son devis, elle va prévoir qu'il y a 10 ans, peut-être un petit peu de misère, mais elle va s'organiser pour que ça soit bien fait et pendant 10 ans. Là, actuellement, bien, on fait ce que le gouvernement nous demande à plus bas coût possible, ouais, le plus rapidement possible. Puis après ça, on s'en lave les mains puis on va aller peut-être chercher un profit sur les ajouts que le gouvernement a oubliés entre-temps, puis ce qu'on ne savait pas, quand on a creusé, on a trouvé deux, trois grenouilles, on est obligé de recommencer, d'attendre, de perdre de temps, tout ça. Fait que, tu sais, tu comprends, on dirait que c'est un puits sans fond, premièrement, puis c'est une roue qui tourne tout le temps. Donc, j'ai toujours l'impression qu'il y a des rangs, là, que ce soit en Beauce, que ce soit autour de Québec, vers Montmagny et tout ça, il y a des rangs où tu te dis « Tabarnouche, me semble que ça vient d'être fait, c'est fraîchement fait. » On repasse à ce moment-ci de l'année, c'est tout défoncé. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job quelque part. C'est un peu comme ça. Moi, si je demande à un entrepreneur de faire ma cour en asphalte chez nous, bien, j'ai pas le goût que l'hiver prochain, quand mon véhicule est stationné, qu'il y ait quatre roulières en dessous du véhicule. Non, je veux que ça t'offre 15 ans au moins. Fait que j'irai peut-être pas au plus beau soumissionnaire, mais je vais y aller par la réputation de celui qui les a tout fait dans mon quartier, par exemple.
Mais tu sais, on parle de nos routes au Québec, que ce soit la 20, la 40, à certains endroits, on a des difficultés. Je suis allé revérifier mes chiffres parce que j'aime ça dire les vrais chiffres. Là, il y a de ça plusieurs années. Sais-tu combien de pourcentage d'eau potable que la ville de Montréal perdait?
Ah, à cause des
à cause du vieillissement de la canalisation. Il y a de ça quelques années. Mettons, je te dis, entre 2000 puis 2010, là, le pourcentage d'eau annuelle de l'eau propre, là, donc de l'eau potable, toi, tu dis 25, OK? Le chiffre, il va te faire halluciner, Ben, c'est 40 %. Donc, 40 % de l'eau potable se perd dans les canalisations de la ville de Montréal.
Cette eau-là, en plus.
Ben voilà. Quand la canalisation fuit, là, elle emporte du matériel avec elle.
C'est sûr. T'sais, la pression.
Ben, la pression aussi. Ouais. Mais elle emporte du matériel, elle déplace le matériel. T'sais, puis là, je regardais dans les dernières années, on est encore au-dessus du seuil là, que Québec s'était fixé, parce que Québec et Montréal, on est dans les mêmes problématiques. Là. On a des problèmes avec les canalisations. Les canalisations sont vieilles. Puis le tramway, avec l'argent du fédéral, puis ton argent à toi en tant que contribuable québécois, le tramway fait en sorte que ça nous donne une bonne raison de prendre de l'argent du fédéral pour remplacer des vieilles canalisations que nous, on avait à Québec. Merci, Ben, puis merci à tous les contribuables du Québec qui entendent ça. Là. C'est grâce à vous autres qu'on peut remplacer notre réseau d'aqueduc. On vous l'a fait payer par vous autres plutôt que de le faire payer par les résidents de Québec. Mais cela dit, c'était 40 %. On s'est amélioré du côté de Montréal. On est rendu à 33 %. Fait que Montréal perd le tiers de son eau potable dans son sous-sol.
Dans le sol.
Puis ça, ben, ça brise les routes, bien entendu. Là.
Fait qu'il y a des gens peut-être qui ont des pompes qui marchent à l'année longue parce qu'ils rentrent de l'eau, ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils rentrent de l'eau dans le sol.
Ouais.
Puis là, ben, on plug la pompe, puis on dépense pour garocher ça peut-être dans les pluviales. Puis peut-être eux autres fuient aussi. Là. Si l'aqueduc fuit, les égouts, est-ce qu'ils fuient? Puis est-ce que les pluviales, eux autres, fuient aussi?
Ah, c'est
moi,
clair.
Je serais curieux de voir ça.
C'est...
On est administré avec des tie-wraps puis de la bras.
Ben, en fait, on est administré par des gens qui ne sont pas des administrateurs. T'sais, en tout respect là, pour Valérie Plante, c'est pas une administratrice. Ouais. En tout non. respect pour Bruno Marchand, c'est pas un administrateur. C'est pas un dirigeant d'entreprise qui va avoir une structure puis une façon de faire qui va faire en sorte que l'entreprise pour laquelle il travaille va devenir rentable avec le temps. C'est un dépenseux, Bruno Marchand. C'est un gars qui a quêté... Il a quitté pour le centre de prévention du suicide. Il a fait des bonnes choses. Il a amené, il est allé chercher des fonds. Après ça, il a transféré pour, je pense que c'est Centraide, avec des salaires, c'est plus que 100 000 par année, Centraide, quand tu travailles pour eux. Là. C'est drôle, hein, tu ramasses de l'argent pour des pauvres, mais toi, tu fais vraiment du cash. Il a ramassé du cash, puis là, il se ramasse administrateur d'une ville. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens quand tu regardes ça. C'est des gens qui donnent les orientations alors qu'ils ne connaissent pas la base de l'administration d'une ville. Puis heureusement, tu sais, autant Valérie Plante que Bruno Marchand peuvent se renseigner auprès des gens qui sont là depuis des décennies, mais en même temps, c'est peut-être à cause d'eux autres que ça va si mal, tu sais, dans nos
belles villes. Est-ce que ces gens-là sont au bon poste?
Ben,
ça amène un bon point. On a-tu mis les bonnes têtes dirigeantes au bon poste? Si on a mis quelqu'un, ben, rappelons-nous du déneigement, il n'y a pas tellement longtemps, mais quand on prend des décisions de même qui impactent la population en général, mettez quelqu'un, si moi je veux un animateur de radio chez nous, j'appelle Marceau. Si je n'appellerai pas, je ne sais pas moi, Roger Bontemps qui a zéro expérience en radio puis qui ne s'y connaît pas puis qui va venir me jaser de camionnage puis qu'il n'a jamais embarqué d'un truck, là, tu sais. Ou qui n'a jamais connu c'est quoi l'histoire du camionnaire. Fait que tu comprends que chaque personne, des fois... Puis tu sais, il y a peut-être trop de copinage en politique
dans peut-être.
Ces postes-là.
Puis tu sais, les gens qui sont là depuis des décennies, qui sont probablement les raisons pour lesquelles ça va si mal, eux, ils ne veulent pas perdre leur poste. Il y a un nouveau maire ou une nouvelle mairesse qui rentre en place. Le maire, la mairesse, ne proviennent pas d'un milieu des affaires nécessairement. C'est des gens qui veulent être des gestionnaires, qui ont été élus par le peuple. Fait que, tu sais, on continue à avancer dans ce qu'on fait depuis des années et des années, c'est-à-dire ne jamais progresser efficacement. Pour que le contribuable dans la ville de Québec en ait pour son argent. Puis tu sais, on va faire un petit aparté, puis après ça, on revient à notre sujet de camionnage. Ben, si tu veux bien, ce matin, j'entendais François Bonnardel, tu sais, que j'aime bien comme politicien. Ouais. C'est un bon individu. Je l'aime moins dans les dernières années parce qu'il accorde moins d'entrevues, là, parce que la CAQ ne veut pas qu'il accorde des entrevues à des gens qui ne sont pas d'accord avec la CAQ. Mais tu sais, normalement pour moi, que François Bonnardel, c'est un bon gars, c'est un bon travaillant. C'est un gars qui avait une entreprise, travaillait, il posait des vitres dans le temps. Là. Je me rappelle pas du nom de l'entreprise, mais il posait des vitres de char. Et là, il est devenu ministre, OK? Il était ministre des Transports, à savoir s'il a fait une bonne job, je ne sais pas. Mais bref, pour ce qui est de la tragédie avec l'homme qui s'est promené à Amqui en écrasant des piétons, là, il se pensait dans GTA. Ah oui. François Bonnardel, son premier réflexe, c'est de dire « Bon, je suis en train de penser que si on devrait peut-être enlever des permis de conduire aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. » Attends un peu, là.
Ça, c'est un cas sur...
C'est parce qu'on est la province où il y a le plus de pellules qui se donnent au Canada.
Comment? Le grand permis qui existerait, là, tu sais.
Ben oui, c'est ça. T'sais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est schizophrène, qu'il y a des épisodes de schizophrénie qui est plus capable de faire la différence entre la réalité puis ce qui se passe dans sa tête. Effectivement, c'est une bonne affaire d'y enlever son permis de conduire, mais d'enlever le permis de conduire à tout le monde qui ont des problèmes de santé mentale, ça relève du pur délire, parce que quelqu'un qui est en dépression n'est pas nécessairement un esti de fou dans la tête. Là.
Ben non. Puis tu le sais, Yann, là, ce qui est administré par l'État, bien souvent, foire à peu près tout le temps. Là, ça veut dire qu'on enlèverait des permis à des gens qui ont probablement un épisode un peu plus dramatique dans leur vie.
Ouais.
Là, on dirait, bon, ben Yann, tu viens de te divorcer, tu files pas bien, tu vas voir ton médecin, tu dis « je file pas bien ». prendre un break d'un mois, quelque chose, là, tu sais. On va t'enlever ton permis, mon Yann. Non, non, mais là, j'en ai besoin, là. Ah, bien, on va te garder ton permis, mais je te mettrai pas off un mois de temps. Tu comprends? Et là, après ça, bien, il va y avoir des erreurs. Nous autres, dans notre industrie, là, si tu es diabétique avec de l'insuline par injection, que tu te piques à l'insuline, bien, tu n'as pas le droit d'aller conduire aux États-Unis. La SAC transfère ton dossier aux Américains pour te mettre une mention W sur ton permis de conduire, ce qui te restreint d'aller aux États-Unis. Bah, là, supposément que ça s'est assoupli et ça va s'assouplir. En tout cas, on verra bien, on est en pénurie, fait qu'ils n'ont pas le choix, là, les règles doivent s'assouplir. Mais d'un autre côté, ça veut dire que si demain matin, je file pas bien, j'ai pas le goût de perdre mon permis de conduire. J'ai peut-être le goût d'aller me promener, faire un road trip, me changer les idées complètement.
Ouais, j'ai la liste des troubles mentaux. On va probablement se reconnaître plusieurs fois, toi et moi, Ben, dans la liste, là, mais agoraphobie, anorexie, anxiété de séparation, apothémnophilie, autisme atypique, autophagie, boulimie, bipolaire, borderline, dépression clinique, frigidité. C'est une dysfonction sexuelle. Fait que là, François Bonnardel voudrait enlever le permis de conduire aux femmes qui sont atteintes de frigidité.
Quel rapport avec la conduite automobile?
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un politicien. Il est plus sur la réaction plutôt que la proactivité. Tu sais,
mais c'est un prérequis pour aller en politique.
D'être quoi? D'être un politicien?
Non, mais d'être
réactif
à ça. Puis d'arriver et de dire, bon, ben regarde, la frigidité, là, on va vous retirer temporairement votre permis de conduire.
Ouais, moi, je suis
pas le droit d'être frigide dans la vie, là. Puis c'est un épisode où c'est peut-être pendant une longue période. Ça fait-tu, toi, une mauvaise chauffeuse?
Ben non. Mais tu sais, c'est des politiciens. Puis ils veulent être sous le Kodak. Puis ils veulent montrer qu'ils sont tristes avec la tragédie, tout ça. Je dis pas que c'est pas ressenti, mais ils veulent se faire voir. C'est de la politique. Puis là, ils arrivent avec des niaiseries de main.
De la pub.
Les gens qui ont des problèmes mentaux, là, on pourrait peut-être leur enlever leur permis. Mais là, tu sais, mettons, si t'es celui-là que j'ai nommé tantôt, si tu fais de l'anxiété de séparation, ça veut-tu dire que t'es un crise de fou? Je pense pas, là. Mais François Bonnardel, il est réactif, tu sais. J'aime beaucoup les gens qui disent, t'as peu, là, moi, je suis policier, mais actuellement, je regarde les listes d'attente pour ce qui est d'un psychologue. Au privé, c'est 6 mois. Puis au public, on est autour d'un an et demi, là, présentement. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on aide ces gens-là. OK, ben là, ça, c'est de la proactivité. Mais de la réactivité, exactement comme ça, ça donne lieu à des discours qui sont sans queue ni tête, où un individu, un politicien, se présente en disant, ben moi, je veux enlever les permis de conduire à des gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est du grand n'importe quoi. La névrose obsessionnelle, Ben, ça aussi, hein, c'est un problème de santé mentale.
Ah, j'avais ça dans mon frigidaire hier.
La nymphomanie.
Hey, pourquoi on t'a enlevé ton permis de conduire? Pourquoi Bonnardel t'a enlevé ton permis de conduire? Parce que je suis nymphomane. Hey, ça, c'est incroyable.
Trouble, ça, on en a parlé, trouble cognitif.
Ça, c'est réel, là.
Ah oh, oui, mais c'est, il l'a dit.
Mais il était où? C'est, tu sais, à part nymphomane, frigidité, puis l'agoraphobie, là, je pense pas, en tout cas, puis il y en a d'autres, là. Mais on avait des établissements, il y a quelques décennies, qu'on a fermés. Faute de sous, faute de je sais pas quoi.
Non, c'était pas faute de sous. C'est que les logs sont rentrés dans la danse et ont dit les fous à l'asile, il y aurait une meilleure intégration si on faisait la désinstitutionnalisation puis que ces gens-là pouvaient vivre dans la société dans laquelle on est. Et on a mis des gens dans la société qui représentaient, écoutez bien ça, des risques acceptables. Et on les fait vivre autour de nous, sans nécessairement être très au courant de ce qu'on fait avec ces individus-là, puis de comment ils passent leur journée. Puis comment ils passent leur journée, là, je vais te raconter quelque chose d'atroce. Quand ils ont commencé la désince, j'étais dans le secteur de Beauport, à la Canardière, OK? C'est comme un centre d'achat, la Canardière. Oui. C'était en face de Robert Giffard. Puis là, ben, ils ont sorti les fous de Robert Giffard. Puis, il gardait des rendez-vous avec certaines personnes qui avaient besoin de soins. Ce qui faisait en sorte.
Les plus lourds pour eux autres, j'imagine.
Ben, ouais. Puis, ce qui faisait en sorte qu'il faisait froid, puis tu n'avais pas le droit d'attendre à Robert Giffard, de ce que je comprends. Fait que les gens allaient au gros café à Canardien, Ben. Mais là, il y a des bonhommes qui ont vu des opportunités, là. Fait que les bonhommes, à Canardière, aux Galeries de la Canardière, dans le temps, je sais pas si c'est encore comme ça, là, mais dans le temps, ben, il y avait des faveurs sexuelles pour un paquet de cigarettes. Ouais. Quand je vous dis là, que les malades ont besoin d'être en dedans, là, c'est pas juste pour notre sécurité, c'est pour leur sécurité à eux aussi.
Ouais.
Ces gens-là sont compris par des gens qui sont comme eux, puis avec des spécialistes qui sont là pour les traiter. Mais si tu les sors dans la société, moi, là, je le sais pas. C'est pas écrit dans ta face que tu as telle ou telle maladie. Fait que ça se peut, je te juge très sévèrement par rapport à un comportement que tu as devant moi, mais je te connais pas.
Oui,
je ne sais pas que tu devrais être à l'hôpital. Fait que la désinstitutionnalisation a eu ses effets. Puis tu sais, ce qui s'est passé à Mkoui, ça me laisse juste présager que tu sais, dans 3 semaines, 1 mois, on va avoir tout oublié ça. Puis là, tu vas voir les policiers qui vont se présenter aux funérailles. J'ai de la peine, j'ai de la grosse peine. Mais concrètement, pour quelqu'un qui attend d'avoir un psychologue depuis 1 an, ça ne changera absolument pas.
Changera rien. Puis est-ce que la publicité fait sur les réseaux d'information en continu qui font en sorte qu'on n'en réveille pas 2-3 cas de même qui disent « Ah yes, j'aimerais ça, moi, être aussi populaire que le petit gars d'Amkoui, là, tu sais, puis j'aimerais ça, moi aussi, je vais faire quelque chose. » Est-ce que ça provoque aussi, est-ce que ça débute des autres cas assez lourds qui vont, à un moment donné, dire « Ouais, lui, par exemple, il s'est pas pris de la bonne façon. Il faudrait peut-être que moi, je rentre dans le métro de Montréal, faire quelque chose, je sais pas, tu sais. » Je souhaite que non, puis je touche du bois. J'espère que ça arrivera pas.
Des fous qui donnent des idées aux fous. Là.
Ben c'est ça, je me dis. Tu sais, quand il y a une fusillade aux États, souvent, on dit « Ouais, mais là, est-ce que ça va en provoquer un autre? » Parce qu'on a donné le goût, puis on l'a publicité. On a mis de la publicité sur toutes les postes, en continu. Puis on a montré comment ça s'est fait, puis tout ça. Versus, tu sais... On pourrait pas dire, OK, c'est arrivé, là. Je comprends là, le malheur des gens, là, puis je voudrais pas vivre ça, mais pas pantoute. Surtout pas dans une petite municipalité que je connais comme Amkoui. J'aurais pas le goût de vivre ça. Puis d'un autre côté, est-ce que je veux que ça spinne, puis ça spinne, puis ça spinne, puis là, on encombre une semaine à se faire spinner ça dans la tête.
Ah oui, mais concrètement, pour les gens qui ont besoin de soins, eux, rien ne va changer.
Rien.
Même s'ils voient des policiers pleurer à télé en disant qu'ils ont bien de la grosse peine. Mais bref, cela dit, mon Ben, on revient à nos histoires de camionnage parce que c'est là-dedans que t'es performant avec la belle gang de Truck Stop Québec. L'industrie du camionnage voudrait des normes nationales pour ce qui est de l'entretien des routes en hiver.
Ouais, ça, dans le fond, tu sais, depuis nombreuses années, puis c'est parti de l'alliance du camionnage. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, on a mis des gestionnaires à des postes, des fois, où ils ont zéro notion de gestion. Mais nous autres, dans nos associations, la beauté de ça, c'est qu'on prend des gestionnaires d'entreprise qui voudraient faire de la gestion. Donc, on les place dans des associations. Est-ce qu'on devrait avoir des normes minimales sur l'entretien des routes, mais canadiennes? Je peux me promener, moi, dans le nord de l'Ontario, puis rouler dans la neige, puis dans Gadou, puis peu ou pas de sel. Ici, je peux me promener au Québec avec l'espèce de jus de betterave, là. Je ne me rappelle pas trop quel. Et à d'autres places, là, je suis sur l'asphalte, là. C'est quasiment sec à part de ça, tellement qu'on en a mis. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une norme canadienne qui serait favorable à tout le monde et où on serait sécuritaire d'un bout à l'autre? Minimalement où ce que les camions sont autorisés de passer, puis si dans les municipalités, on veut pas mettre ça dans les petites routes des quartiers résidentiels, on n'est pas obligé, mais mettons la transcanadienne, il y a des bouts où ce que, puis pas plus tard qu'hier, il y avait une tempête, il y avait des gens qui disaient « Mon Dieu! » Puis là, on n'a rien, là, tu sais. Mais « Mon Dieu! » Le problème, là, c'est que je roule dans neige, puis ça fait un blizzard. Puis là, ben il y a des camionneurs qui me dépassent. Eux autres sont habitués à rouler au fond. Mais si on avait mis un peu de calcium, si on avait mis le jus de betterave, si on avait mis, peu importe la recette, mais qu'on avait mis ça à l'asphalte rapidement sur et déneigé dans des normes. On a quand même des ici au Québec, les autoroutes sont quand même assez bien déneigées. Là. Mais est-ce qu'on pourrait pas rendre la norme canadienne puis dans certaines provinces être peut-être plus proactif sur le déneigement? Puis les tronçons de route qui sont très au nord, là où c'est peut-être plus difficile d'avoir des contracteurs sur de longues périodes, ben je sais pas, rajouter de l'argent puis mettez-en plus, là, tu sais. Nos parcs provinciaux, là, ben quand ils sont plus praticables, on les ferme. Il y a des entrées, là, à Québec, là, où on ferme des fois le parc. C'est pareil pour le parc de la Vérendrye, c'est pareil pour d'autres tronçons, on les ferme. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça au Canada, puis de dire, bon, ben avec la qualité des fois de camionneurs qu'on a, la qualité de personnes qui roulent avec leurs autos, les automobilistes, est-ce qu'on pourrait pas fermer de temps en temps des tronçons de route, mais au moins avoir une norme canadienne égale partout? Parce que je pars d'ici, là, je peux être sur l'asphalte, il y a une tempête de neige, je vais être dans le liquide et rendu un peu plus loin, ben c'est d'autres choses. Là.
Okay.
On peut traverser les quatre saisons.
Là. Ouais. Comment ça fonctionne, les camionneurs? Parce que nous autres, entre Québec et Rivière-du-Loup, là, tiens, Québec et Montmagny, on ferme régulièrement la 20 parce qu'à cet endroit-là, c'est extrêmement venteux. Puis à un moment donné, tu perds complètement la 20. Là, la 20 disparaît dans la neige. Pendant que quand on dit aux camionneurs, ben, c'est beau, là, le tronçon est fermé, est-ce que ces gars-là, ces filles-là sont payés quand même?
Ça dépend de l'entreprise que tu travailles. Certains employeurs vont dire, par la force des choses, va te stationner. Tu me diras combien d'heures tu as été stationné. Puis quand ça sera réouvert, réemprunte l'autoroute puis va faire la livraison. Tandis que d'autres, ben, tu es payé au millage. Le truck ne veille pas. Tu es stationné, disons, juste avant les ponts, là, la halte routière qui est là, direction est.
Ouais.
Ben, si tu es 8 heures là, tu vas être 8 heures sur ton bras.
Pas payé.
Je dirais qu'il y a probablement 80 à 85 des entreprises qui ne paieront pas à cause, justement, que tu es payé au millage. Quand le camion V, tu es payé. Quand le camion V pas, tu n'es pas payé parce que le système de facturation dans notre industrie est mal fait. Il est fait en fonction du millage. Ça veut dire que si j'achète un voyage, tu te dis, ben, j'ai besoin d'un full load à soir, on part de boulevard, puis tu me livres ça à Los Angeles, bien, il y a 3000 milles, je te facture 3000 milles. S'il y a plein d'impondérables sur le chemin,
ouais. Bien,
c'est le chauffeur, c'est la compagnie qui écope.
Ouais, mais
le chauffeur ne sera pas payé. Puis,
c'est parce que ça. J'étais persuadé qu'il y avait un deuxième mode de rémunération, c'est-à-dire quand tu ne peux pas avancer pour des raisons X comme des tempêtes de neige, bien là, tu tombes à un taux à l'heure pendant le temps que tu es dans le truck, parce que tu es quand même responsable du truck et de la marchandise qui est à l'intérieur. C'est comme tu deviens comme un agent de sécurité. J'étais persuadé qu'il y avait une deuxième sorte de rémunération.
Puis d'un autre côté, admettons que tu dis 15, je quitte, parce que la halte routière, c'est pas très confortable, il n'y a pas de resto, il n'y a pas rien, des machines distributrices, ça ne me tente pas. Et je m'en vais, je prends le taxi, je m'en vais à l'hôtel, je me paye l'hôtel, je reviens, la cargaison est volée. La notion de la faute revient à qui? Au chauffeur qui dit, ben moi, je ne suis pas payé. Le truck, là, tu sais, arrangez-vous avec. Là. J'ai mis un cadenas, ils l'ont pété, puis ils ont vidé le stock.
Exact.
M'a dit, ça serait facilement discutable. Mais de plus en plus, par la pénurie de chauffeurs, les entreprises, certaines, ont décidé de payer à l'heure. Ça veut dire que le log électronique, dans le fond, sert de preuve. Est-ce que tu as travaillé ou pas? Et si je logue, parce que je suis en attente là, à cause de la température, je vais loguer que je suis en service. Parce que je n'irai pas me coucher. Il est 2 heures l'après-midi, mettons.
Ouais.
Je ne vais pas me coucher. Moi, je vais me coucher à 8 heures à soir. Bien, là, le log va payer les heures que même tu es en attente. Et de plus en plus d'entreprises sont sensibilisées à ça parce qu'ils se disent, ouais, il n'y a pas de bénévolat dans la vie normalement.
Ouais.
Là, ça l'était avant. C'était une zone grise. Et si je veux garder mes chauffeurs, je n'ai pas le choix de les payer parce que mon compétiteur l'offre à cette heure. Ou on donne un layover. Un layover, c'est une façon de garder le camionneur en le payant, en disant, bon, mais tu as attendu 10 heures. Je vais te donner un layover. C'est un montant non imposable. Je te donne, mettons, 150$ pour tes 10 heures d'attente. Oui, il me reste rien que 15$ de l'heure, mais 15$ de l'heure, c'est un salaire qui équivaut peut-être à quoi? 22$ de l'heure. Et c'est tout à fait légal de donner un layover. Il n'y a rien. C'est comme une période où je te paye, point, puis ça se termine là. Là. Tu vas payer de l'impôt un jour là-dessus, là, parce que ça fait partie de ton revenu. Mais sur le coup, je t'enlève pas d'impôt, je te le donne direct. À la fin de l'année, ça peut arriver 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais ça n'arrive pas régulièrement. Là.
Nos grands dirigeants disent, oh, là, pour ce qui est de la SAC au Québec, on va se donner un break. On va donner un break à tout le monde qui en a besoin là, pour un 60, un 90 jours. Je sais que l'Ontario a mentionné que les policiers de l'Ontario allaient être très cléments envers les conducteurs québécois qui n'étaient pas capables de régulariser leur situation avec la SAC. Qu'est-ce qui va advenir chez nos cousins américains? Là? Si un camionneur ici se transporte du côté des États-Unis avec un véhicule qui ne devrait pas se retrouver sur la route parce que les plaques, exemple, ou le renouvellement de flotte n'a pas été fait, qu'est-ce qui va arriver, Ben?
Bon, actuellement, quand tu renouvelles tes plaques à la SAC, on a ce qu'on appelle le IRP, l'International Registration Plate. C'est que ta plaque est bonne partout et ça dit à tout le monde sur un réseau informatique que Ben, son truck, il est correct, il peut rouler partout, il a payé les immatriculations un peu partout. Actuellement, si on demande un renouvellement ou des plaques, ça veut dire qu'on va faire une demande de IRP,
ouais.
Ça prend minimum 20 jours à l'heure où on se passe. Ça veut dire que je commande ce soir mes plaques en ligne à ça à clic. Et 20 jours plus tard, je devrais avoir ma nouvelle plaque, si j'ai un véhicule neuf, et tous les documents requis pour aller en Amérique du Nord. Là, la SAC a dit qu'il avait quand même parlé avec toutes les autorités à travers l'Amérique du Nord. Mais moi, je n'ai pas juridiction au Texas. Si le policier du Texas, lui, ne s'est pas informé, puis que dans son système, ça dit le truck à Ben, là, Ben Valeur, la plaque, là, ça ne marche pas. C'est pas payé, il a tous les droits sur vous. Il peut dire, remorquez-moi ça à Fourrière, toi, va-t'en à l'hôtel, puis organise-toi pour que tes plaques fitent, mais tu viennes me revoir. Là, ça se peut qu'il y ait des juridictions plus locales qui n'aient pas reçu l'information. Ce qui fait que moi, là, si je suis une grosse entreprise, il y a probablement un fort pourcentage de mes camions qu'on a réussi à plaquer d'avance, sachant que le problème s'en venait. Mais ce n'est pas 100% de ma flotte qui va être plaquée en temps normal. Puis même si la ministre Guilbeault dit « Ouais, mais là, on a parlé aux gens, puis tout le monde va être correct, tout le monde va être au courant », moi, je ne suis pas certain que les petites juridictions, le shérif du comté de peu importe où, dans le Nevada, est au courant de tout ça. Moi, d'après moi, il n'est même pas au courant, il ne sait même pas ce que c'est. Puis donne le truck, puis il dit « Oh, les plaques, ça ne marche pas.
Ouais. »
Donc, Fourrière, on remorque tout ça. Qui va payer pour ça? Il y a des entreprises de transport, pas plus loin que dimanche soir, je parle avec un gestionnaire qui dit, il va falloir s'asseoir ensemble, notre industrie, et peut-être même poursuivre la SAC, parce que nous autres, on a payé. Et je n'ai pas reçu mes documents à temps, et dans le système de la SAC, ce n'est pas confirmé payé, je n'ai pas eu mon renouvellement. Là, la SAC va dire, oui, mais tu avais juste à ne pas sortir de ta cour. Oui, mais je gagne ma vie comme entreprise de transport en charriant du matériel. Là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que quelqu'un soit imputable de toute cette chenoute-là que les entreprises ont vécue. Que ce soit la ministre Guilbeault qui dise « Oui, j'ai avisé tout le monde. » Correct. Si je me fais remorquer dans le fin fond de nowhere aux États, est-ce que tu vas payer ma facture? Mais non. Comment je vais faire, moi, comme camionneur, comme entreprise, de dire j'ai eu trois trucks, là, parce que là, ils ont vu que j'avais un beau truck jaune, un beau truck mauve, un beau truck ci. Puis là, à cette heure, ils savent les plaques ne sont pas payées, ils ont flairé à bonne affaire. Ils m'arrêtent à tous
ouais.
les fois.
Ben oui.
Ils me grandent. Est-ce que je peux envoyer la facture du remorqueur, une coupe de mille, à Mme Guilbeault, dire votre système a planté, j'ai dû payer. Est-ce qu'ils vont rembourser? Moi, je ne suis pas certain. Elle a demandé hier de plaider non coupable pour l'étiquette que vous auriez par la SQ ou les policiers municipaux. Ben oui, on va engorger le système, toi, ça va être beau. Là, dans notre industrie, il y a des gens qui veulent manifester, qui veulent du moins avoir quelque chose d'écrit, au minimum. Voici, je peux donner ça à un policier, c'est écrit en anglais, voici, on a des déboires avec notre système, ça ne marche pas. Et s'il y a quelque chose, appelez-nous. Mais avec quelqu'un qui répond pas, trois heures d'attente, le policier n'attendra pas, lui. Fait que un numéro, s'il y a quelqu'un qui prend l'appel de dire, bon, ben regardez, on a un système qui est défectueux. Monsieur a payé ou madame a payé ses plaques et on est capable de rouler à cette heure. bon, ben laissez-lui une chance. Puis s'il y a quelque chose, vous avez mes coordonnées, rappelez-moi. Puis dans le système, c'est correct, c'est juste que ça ne s'est pas spreadé à l'ensemble de tous les corps policiers en Amérique du Nord, ou les SAC, un peu partout, les DOT de ce monde, qui sont un peu partout en Amérique du Nord.
OK. Hey, on fait un peu de showbiz, Ben, toi et moi, puisqu'on va parler de cœur de trucker. J'ai eu le plaisir de parler avec P.A. Method, là, qui est l'animateur de cette émission-là.
Ouais.
T'as-tu eu accès à des images de quoi ça va avoir de l'air, cette émission-là? On me dit que
j'ai
ça va débuter le 6 avril. Mais les filles là, dans cœur de trucker, là, c'est-tu des filles avec ta shape, avec une grosse perruque blonde, ou c'est des filles là, correctes, mettons?
Ben, regarde bien, OK.
Parce que tu serais beau avec une grosse perruque blonde.
Sur quatre candidats, il y a trois gars, une fille.
OK.
Les quelques images qui ont percé sur les réseaux sociaux, c'est à la mode de la série là, pour les fermiers là, qui passent aussi à VTL. C'est à nouveau, pour être plus précis. Donc,
L'amour est dans le pré.
Bon, cœur de trucker, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis sur un mainstream. On l'a mis sur UniTV et TV5, format Internet. Mais écoute, moi, je pense que je ne sais pas c'était quoi la formule, mais de ce que j'en ai conclu et ce que j'ai su, c'était difficile d'obtenir un camion et de faire le même scénario que j'emmène trois filles à la maison. Et bon, ils chicaneront pour m'avoir à la fin de la semaine, puis un petit tour de tracteur, la brasserie, une petite sortie là, un gros party de famille. Là, ce qu'on a fait, c'est peut-être plus des genres de speed dating ou des genres de rencontres un peu rapides. Et là, ben, il y a eu... Ça a l'air que la fille, là... Je me rappelle pas de son nom. Là. Je l'ai marqué quelque part.
Attends un peu. Moi, tu sais que je suis un journaliste enquêteur.
Coralie.
Oui. Une belle, okay. Belle chantaine, belle fille, beau sourire, naturel. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Là. C'est pas quelqu'un là, que tu sais que quand elle va prendre sa douche, je ne le reconnaîtra plus. Là. C'est vraiment une belle fille.
Oui, très belle fille. Mais pour certains gars, là, on jase. Là. Puis avec tes auditeurs, là, prenez deux minutes puis pensez à ça. Votre blonde est capable de reculer un 53 pieds.
Ouais.
Et de la première fois, pas deux, trois essais, et vous autres, vous reculez un trailer, puis ça vous prend 10 minutes. Est-ce que le coup de l'orgueil masculin en mange une claque quand t'as Coralie comme femme ou comme blond? Je vais te dire, il doit y avoir des bouts là, où ça doit être un peu... En tout cas, peu importe.
Ouais, mais moi, je serais pas capable. J'aurais...
Pourquoi tu serais pas capable?
Ben les femmes qui ont partagé ma vie... Quand, exemple, je sais pas, tu sais, la mère de mes gars, moi, j'habitais en Beauce, puis je savais des fois qu'elle était appelée, mais la mère de mes gars fait de la télé, puis elle a une entreprise aussi dans le merveilleux monde du congrès, OK? Fait que si toi, avec ta gang de Truck Stop Québec, vous voulez faire le congrès de tous les camionneurs et camionneuses au Québec, ben tu peux l'embaucher, puis elle va prendre ça de A jusqu'à Z, aller même jusqu'à l'animation en bout de ligne. Quand je savais qu'elle était dans une autre ville, à Montréal, mettons, pendant 2-3 jours... j'avais une certaine inquiétude. Je sais pas, peut-être parce qu'on est des gars, puis on est mal fait, puis on a l'impression qu'il faut absolument protéger la mère de nos enfants, mais en même temps, c'est comme ça que je me sentais, Ben. T'sais, je me levais à 3h du matin, 4h du matin, je me disais, j'espère qu'elle est correcte, j'espère qu'il n'est rien arrivé, j'espère qu'elle a bien barré à la porte de sa chambre d'hôtel, j'espère qu'elle n'a pas rencontré un plus riche. toutes ces affaires-là, toutes les...
Un camionneur.
Ouais, c'est ça. Exact.
Elle s'est inscrite à cœur de trucker. Ouais. On ne sait pas, là. Non, mais c'est vrai. Puis j'abonde dans le même sens que toi. Mais d'un autre côté, une fille comme Coralie doit quand même repousser quelques gars. Mais pour avoir parlé à la production, là, de ce que les autres disaient, là, c'est que, tu sais, ils emmènent comme les CV des gars qui se proposent pour cette fille-là. Ça a quasiment pris une remorque pour aller porter ça chez eux. Ça a l'air qu'ils n'avaient une tonne de CV pour la belle Coralie. Au départ, il y avait 6 ou 7 candidats.
Ouais.
On a réduit ça à 4. J'imagine que, parce que là, ce qu'il fallait faire, il fallait louer un camion. Pour la production, là, c'était tout un défi. Il faut louer un camion, soit à l'entreprise, tout ça. Il faut probablement en retirer peut-être quelques logos, parce que si tu as des logos, je sais pas moi, tu transportes de la bière, puis tu as le logo 53 pieds de long de bière, ben ça fait pas une belle image pour la série télé. Fait que non, il y a... Moi, j'ai hâte de voir comment on va, puis il n'y a que PA Méthode qui connaît la réponse, là, mais comment on va organiser et comment on va savoir s'il y a eu, c'est en suivant en série naturellement, mais est-ce qu'il y a eu des matchs parfaits? Est-ce que Coralie aujourd'hui est matchée avec quelqu'un? Puis est-ce que, tu sais, le voyage final, c'est souvent dans le sud ou souvent des destinations. Est-ce qu'à Coralie, on l'a envoyé avec son futur au Texas, faire un voyage en troc? Je sais pas, tu sais, ça va être à définir comment est-ce que la production a défini cette série-là. Mais c'est un début, moi, je pense. Puis on va probablement découvrir de très, très bons camionneurs. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Tu as probablement entendu la vidéo promotionnelle qui circule sur les réseaux sociaux où, la personne dit « Ouais, mais moi, ça fait une couple d'années, j'ai pas eu de conjointe, j'ai pas eu de blonde, tout ça. » Puis P.O., il dit « Ouais, même pas dans ton truck en arrière. » Il dit « Non, j'ai tout essayé, ça a pas marché. » On n'est pas vendeur comme camionneur. Pourquoi? Parce que une femme, je vais parler pour les gars, là, mais une femme, ce qu'elle veut, c'est probablement fonder une famille dans un fort pourcentage des cas. Elle veut l'amour. Elle veut pas de quelqu'un qui part le dimanche soir puis qui revient le jeudi ou le vendredi, qui est brûlé, cerné, puis qu'il a besoin d'un 12-13 heures pour récupérer sa semaine, tout ça. Puis qu'après ça, c'est go, go, go pendant deux jours et demi, puis dimanche, bien, il faut que je reparte. Il y a toujours la question de s'éloigner de la personne aimée. Puis des enfants, quand t'as des enfants, puis que t'es quitte, puis que l'alarme est à l'œil, c'est pas le fun là, pour un camionneur. Ça doit pas l'être plus pour une camionneuse, mais tu sais, on est là. Tant mieux si une série comme ça, puis je sais pas si c'est à cause qu'on se parle depuis quelques années, Yann, là, mais tu remarqueras que de plus en plus, on s'intéresse aux camionneurs. Que ce soit pour l'amour, que ce soit pour bien d'autres choses. Il y a comme un intérêt développé de la part des productions d'arriver à faire. On a eu les courses de camions. C'était un monde qui était tellement underground avant. Ouais. On n'a qu'à penser à Saint-Joseph, Saint-Théophile, qui sont dans la Beauce. Et l'Adoré au Lac-Saint-Jean, les plus proches, mettons, de ta station. Et là, on a commencé à faire des séries. C'est correct, ça n'a pas toffé dans le temps, mais on s'est intéressé à ça quand même. On a peut-être un grave problème de manque de, je sais pas, de vente de publicité. C'est peut-être ça le problème. Mais là, j'ai hâte de voir qui seront les principaux partenaires de cette série-là. Puis si on a vendu assez de publicité pour intéresser assez de gens, parce que, tu sais, dans le monde des fermes, on a mis des vendeurs de tracteurs, des fabricants de tracteurs. On voit même des affaires de la coop là, et tout ça. Fait que, est-ce que dans notre industrie, on aura intéressé des entreprises à mettre des sous là-dedans pour continuer une version 2? Je le souhaite, mais tout dépendamment de ce que sera la saison 1. Puis, tu sais, il faut le dire, là, ils ont quand même choisi de très, très bons figurants. Puis, même pour Coralie, j'aurais souhaité avoir peut-être au moins deux filles, deux gars, mais c'est dur dans notre industrie d'intéresser beaucoup de femmes à intégrer le milieu. Puis moi, j'ai surtout hâte de voir est-ce que les quatre, on a réussi à les matcher? Puis est-ce que ça fera comme d'autres séries télé où on perdra un peu d'intensité parce qu'on sait que ça se match rapidement, c'est le but du jeu. Bing-bang, puis après ça, une semaine après, quand l'émission est finie, il n'y a plus personne qui s'endure. J'espère que ça va perdurer dans le temps.
Ce qui est important pour nos camionneurs qui rencontrent l'amour, c'est qu'il y a du bing-bang bien en masse. Hey, on termine avec ça, Ben. Il nous reste à peu près 2 minutes, là. Je suis un peu pressé par
Mon
le
Dieu,
temps.
Mon Dieu, ça va donc bien vite.
Ben oui, mais ça passe bien en bonne compagnie. Tu voulais me faire un genre de quiz, c'est ça?
Tu m'arrêtes quand on n'a plus le temps.
Hey, okay? Moi, je suis poche des quiz, là. OK, vas-y.
Combien en pourcentage de femmes dans notre industrie qui sont conductrices de camions?
7%.
Ben, c'est à 4% actuellement. C'est le nombre de femmes. On veut monter ça à 10% éventuellement. Le Québec compte combien de contrôleurs routiers au dernier recensement qui était en 2001?
500.
325.
OK.
C'est pas beaucoup, hein? En 73, combien de décès le Québec comptait sur les routes?
En 73?
Oui.
Entre 2 et 3 000.
2209, Yannick, et pour 2 265 471 véhicules. En 2021, combien de décès?
Autour de 400.
347, t'es bon. Et il y a 6 900 000.
Ouais, attends un peu, là. Faut pas aller trop vite, là. 2000 quelques, tu m'as dit?
2209 en 73.
Mort en 73. Et maintenant, 73. L'automobiliste qui est rendu l'ennemi juré de la planète ben québécoise. Oui. Là.
C'est pour ça que je t'emmène ce sondage-là aujourd'hui.
Entre 300 et 400 morts. Ça veut dire qu'on s'est amélioré malgré le fait que les pas bons
un peu, Yannick,
qui nous disent qu'on
combien?
Est des pourris.
Oh, 2 265 471.
Ouais.
Mettons 2 300 000 véhicules en 73. En 2021, 7 millions de véhicules.
Oui, puis on s'est amélioré, puis tu sais, les véhicules aussi se sont améliorés au niveau de la sécurité. Ah, ben c'est intéressant. T'en as-tu un autre?
Combien de fuseaux horaires la route 66 que tu aimes bien traverse?
J'aurais tendance à dire 3.
C'est 3.
C'est 3.
Bonne réponse. Combien de kilomètres la route 66?
Je l'ai faite deux fois. 4000.
À partir de Chicago, là?
4000.
En 1937, elle avait 3947 kilomètres. 3945, pardon. Puis avant. Non, après 3000. Après 1937, mais elle est là. C'est 3670 parce qu'on a contourné la ville de Santa Fe. C'est juste ça. Okay, la plus longue route aux États-Unis, Yann?
La plus longue aux États-Unis?
Oui.
Ben, j'aurais tendance à dire la 66.
C'est la 90.
OK.
L'autoroute 90 qui a 5000 kilomètres.
Oh, OK.
Elle part de Boston, elle termine à Seattle. Puis la route la plus longue au Québec, pour faire un petit peu concurrence...
La route la plus longue, ça doit être la 20. En fait, là, c'est la 40, excuse.
La 132.
Ça te 132?
Elle a 1612 kilomètres parce qu'elle part de la frontière américaine au sud. Elle va tourner autour de la Gaspésie, puis elle va revenir sur ses pas et elle va le finir en T.
Ah oui,
oui. Incroyable.
J'aurais dû y penser, Ben.
Ben, écoute.
Je suis pas vite.
Ça, là, ça, c'est plusieurs milliards de contrats d'asphaltage.
Exact.
Plusieurs pertes de cap de roue et de suspension à cause des nids de poules. Et c'est 1612 kilomètres de peu de bonheur.
Hey, je te souhaite un bon voyage. Félicitations encore de t'impliquer pour amasser des fonds pour des gens qui en ont besoin. C'était pour la fibrose kystique de mémoire, c'est
oui,
ça?
Oui, fibrose kystique. Mais pour les gens de l'Ukraine qui en souffrent, qui ne sont pas capables de s'approvisionner suffisamment actuellement.
Donc, félicitations de le faire. On invite les gens à s'informer sur truckstopquebec.com si l'industrie du camionnage vous intéresse. C'est du monde le fun qui parle aux camionneurs. Salut, mon ami!
Bye-bye!
Bye-bye, Ben. Benoît Terrien de Truckstop Québec. Nous, on fait une très courte pause et on revient tout de suite. Merci d'être bien branché sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec.
Marceau, le soir. Le soir.
Vous recherchez le comble du confort et de la tranquillité? Le Bourg de Coulonges, un immeuble unique, chaleureux et sécurisé. Insonorisation supérieure, piscine, terrasse au toit et vue imprenable sur le fleuve. Voilà ce que vous offre notre complexe à Sillery. Trouvez le logement parfait pour vous au logisbourg.com.
Vivez à quelques pas de tout. Appartements urbains, des condos locatifs à Sainte-Foy, Montcalm, Loretteville et Lévis. Fini les recherches à ne plus finir. Contactez notre équipe proactive et efficace pour trouver votre prochain milieu de vie. Simple demain. appartementurbain.ca. La vie locative à l'échelle humaine.
Est-ce une bonne idée de décaisser du REER avant 71 ans? À quel âge devrait-on demander de la Régie des rentes du Québec?
Ici Jean-Philippe Vézina. Si vous avez des questions avec votre planification de la retraite, assistez à notre conférence gratuite le mercredi 15 mars à 18h30. C'est le retour en présentiel. Les places étant limitées, inscription au 418-681-4357.
L'équipe Jean-Maurice Vézina, cabinet en planification financière, est membre de valeurs mobilières Group Investors IG Gestion Privée de Patrimoine.
Chez Lunetterie Bellan, obtenez le meilleur prix garanti avec les forfaits monture et verre. 99 $ pour les simples visions et 249 $ pour les progressifs. Et pour un temps limité, économisez jusqu'à 100 $ à l'achat d'une deuxième paire. Lunetterie Bellan, service, qualité, bas prix.
Notre station Boulevard 102.1. qui porte les lettres d'appel CFL-FM et diffuse sur la fréquence 102.1 FM, procède actuellement à des tests de mise en onde à partir de son nouveau site d'émetteur situé au Mont-Bélair. Si vous éprouvez du brouillage en lien avec notre signal, nous vous invitons à signaler l'endroit problématique en nous laissant votre adresse ou code postal à l'adresse signal@blvd.fm ou à communiquer avec nous au 418-529-1021, poste 8444. Merci de votre collaboration. Un message de Boulevard 102.1, une propriété Leclerc Communication.
Ça peut être parce que la famille s'agrandit ou juste parce que t'aimes sortir des sentiers battus. Peu importe, si t'as besoin d'un VUS aussi polyvalent qu'économe, le Rogue 2023 de Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan est parfait. Ça boit à peine 6,7 litres au 100 km sur route et ça ne mange pas tout ton budget. Loue sur 64 mois le Rogue SV édition minuit à 499 $ par mois avec léger comptant. Détail pendant l'événement testé à l'adrénaline chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan.
Les condos alloués du quartier Air Extra sont spacieux, lumineux et extra tranquilles, et ce, même s'ils sont situés près de Laurier-Québec et du CHUL. Ces unités de grande superficie offrent toutes les commodités pour un bien-être inégalé. Demandez une visite au immeubleroussin.com.
Boulevard! L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour nous ce soir. Ça a été encore une fois un plaisir. J'espère que vous passerez un bon restant de soirée. D'ailleurs, les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Sinon, ben sur Québec, c'est de la neige qu'on nous annonce pour ce soir, un genre de 5 cm. Il y aura des petites rafales à 50 et 70 km/h près du fleuve. Mais somme toute, on aura une soirée quand même assez paisible avec un peu de neige. Puis pour ce qui est de demain, mercredi, ben la neige va se continuer avec un minimum de moins 4 et un maximum de plus 2. Donc, il y aura des probabilités aussi de pluie verglaçante pour ce qui est de demain. C'est ce qu'on nous mentionne. Jeudi, ben là, c'est le retour du soleil. Maximum de plus 4 degrés. Ciel dégagé avec un maximum de moins 9. Et vendredi, ben, ce sera un ciel dégagé ou peut-être quelques nuages. Donc, alternance de soleil et nuages avec un maximum de plus 2 degrés. Samedi, dimanche pour l'instant. Samedi, 18 mars, ben, ce sera de la neige avec un maximum de plus 1. Et dimanche, ben, ce sera nuageux. Avec 60% de probabilité d'averse de neige, maximum de 0. Donc, on se laisse là-dessus. Si vous êtes sur la route et que vous vous dites, coudonc, ce poste-là, ça rentre pas pire, ben, sachez qu'on a fait un petit changement sur l'antenne. En fait, pour nous autres, c'est un gros changement puisque c'était une demande de nos auditeurs qui disaient, ouais, on dirait que la portée de l'antenne, elle va pas assez loin. Ben, avec la gang de Leclerc Communication, ils se sont penchés là-dessus. Puis là, ben, on a une antenne qui fonctionne tempête comme les autres tempêtes. Donc, on se bat à armes égales avec toutes les autres stations de radio. Puis on est bien, bien, bien excités de ça. Merci beaucoup aux gens qui nous transmettent de l'information, là, que ce soit par texto ou encore comme la nuit dernière sur mon Messenger personnel. C'est très le fun de voir que vous participez au succès de cette station-là qui ne cesse d'impressionner dans le marché. Donc, voilà, je tenais à vous remercier puis vous dire que l'antenne a été changée. Donc, restez avec nous du matin jusqu'au soir. C'est possible maintenant. Autant pour ce qui est des shows où on genre, que des shows où on met un peu plus de musique. Là. C'est la meilleure musique rock à Québec. Et ça, ben, c'est grâce à John Padula. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se jase demain, 11h30, pour ce qui est de Marceau le midi. Salut! Bye-bye!
Marceau le soir.
Pour votre demande de pardon ou waiver, chez Identité Québec, on s'occupe de vous. Profitez de notre financement à 0% pour 12 mois. IdentitéQuébec.ca. Votre dossier, notre spécialité.
Équipez-vous pour l'aventure au Salon plein air, chasse, pêche et camping et Salon du bateau de Québec. Le plus grand événement de plein air revient au centre de foire Expo-Cité ce jeudi jusqu'à dimanche pour une fin de semaine de passion. Trouvez les derniers équipements de chasse, de pêche, de bateau, de VR et plus encore. Des conférences passionnantes toute la fin de semaine avec des experts, dont moi, Patrick Campo. De plus, courez la chance de gagner un bateau Prince Craft et d'autres super prix. Pour information et billets, salonpleinairquebec.ca.
Profitez du froid de l'hiver pour geler votre taux hypothécaire avec MRL Courtier Hypothécaire. Que ce soit pour un achat, un refinancement ou un renouvellement, entourez-vous d'experts et garantissez votre taux jusqu'au 17 juillet. Avec MRL Courtier Hypothécaire. MRLHypothèque.ca.
Préparez-vous! Dès jeudi, c'est la grande vente d'entrepôt VIP Louis Garneau. Obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur les vêtements, accessoires et vélos sélectionnés. Vélos électriques, de gravel, hybrides et pour enfants. Équipez-vous pour la saison. Dès jeudi, à l'entrepôt Louis Garneau à Saint-Augustin-de-Desmaures.
Les pizzas Ludo. Offertes en plusieurs variétés populaires, au vrai goût du resto. Pas surprenant qu'on en retrouve autant dans le panier d'épicerie des Québécois. La pizza congelée, mais comme celle du resto. Pizza Ludo, en format de 9 et 12 pouces.
Samedi et dimanche, Boulevard 102.1 vous plonge dans l'univers musical de Matt Marcotte et Reg Laplanche. Le volume à Blanche. Un show storyteller avec deux gars qui en ont pas mal à raconter.
Moi et Reg, on jase un peu, mais on est une des émissions où on raconte le plus d'anecdotes, mais où, ultimement, on jase le moins.
Ouais, c'est vrai.
On en a eu des rencontres avec des artistes, des histoires, des anecdotes. C'est ce qu'on veut partager avec vous.
Ne manquez pas le volume à Blanche. Les samedis et dimanches, 16h. Avec Reg Laplanche et Matt Marcotte.
Boulevard 102.1.
Chez Toyota, nous misons sur la qualité et la fiabilité depuis toujours. Parce que qui dit hiver dit neige, pluie, verglas, en une fin de semaine. C'est l'heure Toyota. Découvrez le polyvalent RAV4 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca. Chez Toyota, nous misons sur la qualité et la performance. Parce que même si tous les chemins mènent à Rome, ben c'est peut-être pas là que t'as le goût d'aller. C'est l'heure Toyota. Découvrez le nouveau et robuste Tacoma 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
C'est l'événement Snowcheck de Polaris chez ProPerformance. Jusqu'au 29 mars, réservez et personnalisez votre motoneige Polaris 2024 et obtenez jusqu'à 3 ans de garantie Polaris. Garantie d'expédition d'ici le 30 novembre ou recevez 1 500 $ de rabais. Quantité limitée. ProPerformance.ca. Bois-Châtel et Saint-Raymond.
Depuis que je suis petit, je sais que je suis différent.
Comme les autres.
J'ai toujours été attiré par les hommes.
Par les femmes.
Au fond de moi, je sais que je suis homosexuel.
Hétéro.
Personne n'a le droit de dicter l'orientation sexuelle de quelqu'un. Faire pression par le biais des thérapies de conversion peut avoir de graves conséquences. C'est inutile, dangereux et illégal. Obtenez de l'information et des ressources au québec.ca/thérapie-conversion. Un message du gouvernement du Québec.
Boulevard 102.1, c'est votre radio rock.
Boulevard 102.1.
Les groupes de l'heure, les chansons qui écrivent l'histoire du rock. C'est ici que vous les entendez. Là où on vous garde informé sur la musique.
Véro, t'as-tu le goût de parler des nouveautés tout de suite?
Mais aussi,
102.1.
Sur un paquet d'autres sujets d'actualité.
Allez, parlez aux femmes.
Achetez-y des petits bas décoratifs.
Come on, on est plus intelligentes que ça, là.
Non, mais t'as peu, là. Il y a une vaste majorité qui ont voté pour Justin Trudeau pour les apparences.
Qui est l'animateur de l'après-midi à Boulevard?
Oh! Oh non!
Qui a plus mal que Véro en ce moment?
Qui ça?
L'ego de Denis Gravel.
Boulevard 102.1, c'est plus que du rock.
Aujourd'hui, dans le podcast Il était une fois la santé, on vous parle du préhospitalier. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Moi, j'en ai aucune espèce d'idée, mais j'ai une experte avec moi, la docteure Élise Berger-Pelletier, puis elle est allée une couche encore plus loin. Elle est allée chercher quelqu'un qui est directement sur le terrain. Comment ça fonctionne une fois que vous avez appelé le 911? C'est quoi les différentes étapes? Qui va vous prendre en charge? C'est quoi les histoires derrière ça? Je pense que vous allez trouver ça fort passionnant. J'en profite pour remercier le docteur Steve Bernier, qui est un expert en implants dentaires. C'est un chirurgien maxillofacial qui travaille et qui est cofondateur de la clinique Maestro à Lévis. Vous avez besoin de quelqu'un, justement, parce qu'il vous manque une dent, plusieurs dents. Vous portez un partiel, ça vous agace. Les implants dentaires, c'est la solution qui va changer votre vie. Il fait aussi de l'extraction de dents de sagesse avec ou sans médication sédative. Et du côté de Lévis, ça se trouve super, super facilement. Sinon, allez sur le drstevebernier.com.
Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron
et Dr Élise Berger-Pelletier, urgentologue.
Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 418-835-5858 ou drstevebernier.com.
quand on parle des différents métiers de la santé, il y en a plusieurs qu'on voit qui ont l'air donc ben glam, mais c'est pas mal la pointe de l'iceberg que nous autres, on contemple. Élise, toi, t'es urgentologue, on te parle à toutes les semaines, mais tu travailles pas toute seule dans ce milieu-là. T'as travaillé, entre autres, pour le gouvernement. T'as géré des urgences et t'as aussi, puis ça, je sais que ça a été... Je ne sais pas si c'était déjà un coup de foudre en avance, mais ça semble avoir été une passion pour toi, le prix hospitalier. Mais je vais te faire une confidence, j'ai aucune idée c'est quoi, puis je comprends zéro là-dedans. Il va falloir que tu m'aides à comprendre. Là.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans « Il était une fois, le prix hospitalier » avec un merveilleux invité. Puis oui, moi, je suis tombée en amour dans cet univers parallèle méconnu. Et aujourd'hui, on démystifie tout ça ensemble.
Alors, on a un invité avec nous parce qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie. Puis, quoi de mieux que quelqu'un qui est sur le terrain pour nous en parler? Michel Gauthier, on t'appelle Mike, c'est ça?
Oui, Mike.
Mike Gauthier, à ne pas confondre. Oui,
oui
c'est génial.
Good Music Plus.
Mais toi, tu es quoi? Paramédic?
Paramédic, oui, depuis 22 ans.
OK, là, j'ai besoin de ton aide parce que dans ma tête, c'est un paramédic, c'est la même affaire qu'un ambulancier.
Non.
OK!
Oui, fake. C'est très délicat, ça.
Bon, parlons. D'abord, c'est quoi le préhospitalier, puis c'est quoi être un paramédic?
Parfait. Je vais commencer par c'est quoi être un paramédic. Ben, premièrement, il faut faire la distinction. Avant, il y avait effectivement des ambulanciers. C'est dans les années 80 et avant. Dans ce temps-là, en fait, c'était pas bien compliqué. Tu avais la compagnie funéraire qui s'occupait des patients morts, puis c'était les mêmes personnels qui étaient ambulanciers et qui étaient thanatologues.
Ah, pas vrai?
Ah oui, ouais. C'est vraiment spectaculaire.
T'as pas étudié dans les années 80 même?
Oui,
ça fait pas si longtemps que ça.
Mais voyons.
Puis les paramédics là, qui sont de l'ancienne génération, là, bon, il y en a encore un peu sur le terrain, la plupart ont pris leur retraite, là, ont vécu cette époque-là où tu pouvais amener un cadavre puis un patient en même temps à l'hôpital, puis ils étaient payés au transport. Écoute, c'est vraiment une histoire...
Mais voyons donc.
Capotée. Fait que oui, c'est très récent, ce système-là, que ça s'est transformé, mais je voulais faire la parenthèse parce que moi, ça me fascine complètement.
Mais moi, je me dis, tu m'aurais dit dans les années 40-50, j'aurais fait tant qu'il est correct, c'est une autre époque, mais les années 80, je les ai vécues, là.
Exact.
Fait que ça me surprend bien gros. Donc, paramédic.
Oui, parce qu'à un moment donné, on était super bon, là. On en amenait le monde vraiment rapidement à l'hôpital, mais mourir à l'hôpital. On n'était pas super bon, on ne les trouvait pas. Puis là, on était.
Vous étiez bon dans le transport.
On était vraiment bon, on était rapide, on avait peur de rien, pas peur du sang. Puis à un moment donné, on s'est dit, comment on pourrait faire pour être meilleur? Hein? Parce que c'est bien beau amener des patients à mourir à l'hôpital, ce serait le fun. Qu'on puisse les sauver. Donc, on a commencé à avoir de la formation, des actes délégués par le Collège des médecins. Puis, c'est de là qu'est apparue l'appellation, excusez-moi, paramédic.
OK, fait que c'est quand on croise des ambulances sur le terrain, c'est des paramédics qui sont à l'intérieur de ça.
Exactement.
OK, fait que ça n'existe plus, l'appellation ambulancier. On l'utilise, mais c'est pas la signification que ça a déjà eu. Là.
Effectivement, je vous dirais que c'est un peu un comparatif de garde-malade à infirmière. Il n'y a plus de garde-malade. Si tu as des infirmières,
mais
plus d'ambulanciers.
Les personnes âgées appellent encore ça
oui,
une garde-malade.
Oui, moi, je me fais appeler régulièrement garde-malade.
Mais oui, t'es une fille, Élise. Tu
oui.
peux pas être autre chose qu'une garde-malade. Tu travailles dans un hôpital.
Voilà.
Oui, les temps ont bien changé, mais c'est un passé qui n'est pas si lointain. Pourquoi le métier de paramédic?
Sérieusement, ça, c'est une très bonne question. Je ne le sais pas. Depuis que j'ai 7-8 ans, je me suis dit, moi, je vais être paramédic dans la vie. J'ai tracé ma voie, je l'ai faite.
Mais voyons.
Je te le dis, mais tu sais, maintenant que je réfléchis, je pense que c'est...
Tu voulais pas être médecin, tu voulais pas être infirmier, tu voulais pas être pompier, policier, tu voulais être paramédic.
Paramédic. Puis c'est-tu quoi? J'ai même étudié pour être infirmier avant, juste pour être un meilleur paramédic. Fait que, je suis un gars particulier en base.
D'autres, on aime ça les bébites, hein, Élise?
Oui, nous en sommes deux, donc c'est pour ça que je l'aime autant, tout à
merci.
Fait.
Merci, oui, vraiment. Mais en fait, tu sais, je pense que j'ai toujours aimé l'adrénaline, aider les gens, sauver des vies. Tu sais, sauver des vies, c'est quand même cool.
J'imagine que tu finis ta journée, puis moi, je sauve pas de vie. Là. Des fois, je fais, j'ai eu une bonne journée, mais je peux pas me vanter que je sauve des vies en quelque part là-dedans. Là.
Non, mais tu sais, en fait, maintenant, en 2023, j'en sauve pas si souvent que ça des vies. Par contre, j'interviens beaucoup dans l'intimité des gens. J'aide des gens, je change des vies. C'est ça que j'apprécie aujourd'hui, en 2023, d'être paramédic. Là.
Avant d'avoir plus d'informations sur justement c'est quoi être paramédic, c'est quoi, tu dis que tu as étudié pour être infirmier auparavant, c'est quoi le vrai parcours académique pour un jeune ou une jeune qui aujourd'hui, ou quelqu'un qui est peut-être en train de se dire, moi, là, ma job me plaît pas, je veux sauver des vies, ça m'appelle. C'est quoi le parcours pour devenir paramédic?
C'est bien simple. Secondaire 5, tu termines. Après ça, tu s'en vas faire un diplôme d'études collégiales, un DEC. À Québec, c'est au cégep Sainte-Foy.
As-tu besoin de tes maths et tes sciences?
Secondaire 5, bien standard.
OK.
Bien banal. Après ça, cégep Sainte-Foy ou CNDF. C'est les deux établissements dans la région de Québec.
Collège Notre-Dame-de-Foy, ça, le CNDF?
Oui, exactement, oui. Test physique, si tu passes ça, c'est...
Comme les policiers?
Ben, c'est pas exactement le même test, mais c'est le même principe, effectivement. Puis c'est contingenté, par contre. Fait que, grosso modo, 80 % de moyenne.
Puis il y a quand même y a eu quelques programmes qui ont ouvert dans les dernières années. Là, on a Bécomo, ça heureusement, là, parce que comme dans toutes les professions de la santé, il y a une pénurie aussi au niveau des paramédics. Fait que oui, quand on parlait de l'histoire, là, ça a commencé par rien. Après ça, ça a été un diplôme d'études professionnelles. Puis c'est un DEC depuis environ quoi, Mike, 20?
Un peu moins de 20 ans, le DEC. Je dirais 10-15.
Oui, puis à la fin du DEC, ben, tu as ton diplôme d'études, mais il faut aussi faire un examen certificatif, ça prend un permis de pratique. Donc, dans le fond, c'est pas un ordre professionnel au même titre qu'un infirmier ou un médecin. C'est la Direction médicale nationale. Puis c'est ce que je faisais. T'sais, quand tu disais, j'ai travaillé au gouvernement, t'sais, moi, j'étais comme la directrice de l'ordre des paramédics, mais c'est un peu le même principe. Ça prend un permis de pratique à chaque année. Ben, à chaque année, à un cycle, il faut renouveler son permis, faire de la formation continue. Fait que ça se ressemble.
Là, il faut que vous m'expliquiez c'est quoi le préhospitalier. J'ai, jamais embarqué dans une ambulance de ma vie. Je pense que je suis allée aux urgences une fois quand j'étais jeune, puis ma mère travaillait là-bas. Fait que ça avait donné un coup de main. Mais qu'est-ce que ça englobe, le préhospitalier, pour le commun des mortels?
Bien, mettons que je vais plus spécifiquement au paramédic. Le paramédic, dans le fond, ça va être vraiment comme le spécialiste des soins médicaux et traumatiques avant d'arriver à l'hôpital. T'sais, c'est lui qui va être en charge vraiment d'arriver sur l'intervention, prodiguer les soins, puis ensuite faire le transport. Il y a comme une partie de mon travail qui va ressembler à, je veux dire, à une infirmière. Il y a une partie du soin qui va être là. Il y a une autre partie qui ça va ressembler à l'inhalothérapeute. T'sais, toute la gestion des
le côté stabilisation, dans le fond.
Oui, vraiment. Puis t'sais, les voies respiratoires, mettre des tubes dans la bouche, ces affaires-là. Il y a une partie qui va être très travailleur social. T'sais, tous les cas de santé mentale,